C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquez. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour le 7e magazine d'Instant Sport, votre émission qui décrypte l'actualité sportive de la Lozère. Alors après le pitoyable match nul de l'OM contre Lorient la semaine dernière, il n'avait pas voulu venir se faire chambrer et après la victoire d'hier contre Metz, il s'est décidé à revenir dans l'émission. Monsieur Patrick Bianconi, bonjour.
Alors, première erreur de la part de Ludo Terrol, parce que Lorient c'était mercredi, donc comme les signes, c'était lundi dernier, donc c'était postérieur à
c'était
l'émission.
C'était un piège, voilà, Patrick,
c'était
bien
un
joué.
Piège. Et bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, très heureux de revenir parmi vous.
Alors lui, il enchaîne les victoires avec l'équipe féminine du basket Cosmandois. Luc Respond, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Il n'a pas peur du froid, de la neige, il écoute dès qu'il peut. 42 FM Loire, à des amis du Collet de Dèze jusqu'à Andrézieux. Monsieur Laurent Julien, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Des nouvelles de vos amis d'Andrézieux?
Ça va, merci.
Ça va, ils vont bien?
Ouais, nickel.
Très bien. Alors, une nouvelle fois, actualité sportive oblige, nous recevons des joueurs de l'AFL qui viennent pour une fois parler d'une défaite. Alors, merci d'être ici présents, Pierre Tessier et Mickaël Defretas de l'AFL, bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Alors, on va d'abord commencer ce mag en parlant d'autres sports lozériens, de volley. La semaine dernière, dans l'Instant Sport, l'entraîneur du MVL, Constant Chouassi, nous avait dit que son équipe avait un meilleur fond de jeu que le leader du championnat, Élite Fréjus, que le MVL recevait justement ce samedi. Eh bien, on peut dire qu'il avait raison. Mende a battu sèchement Fréjus 3-7-0. Alors, avant ce match, Fréjus avait une seule défaite au compteur. 24 points, solide leader. Au match aller, ils avaient d'ailleurs sèchement battu Mende 3-7-0. Un retour à l'envoyeur, Patrick?
Oui, on peut vraiment dire ça comme ça. Une défaite vraiment terrible au match aller de la part des Mendois, avec vraiment des scores de 15, 17, 20. Enfin, bon, vraiment une branlée, comme on dit en termes sportifs. Et puis donc samedi, une revanche éclatante, même surprenante par l'ampleur, surtout là aussi vraiment très peu de points marqués par Fréjus. Alors c'est vrai, quelques absents du côté varois, mais aussi l'attaquant prioritaire du MVL était lui aussi blessé, le Prado, la recrue qui vient d'Alès, voilà, ça s'équilibrait quand même au niveau des forces. Fréjus impressionnant depuis le début de la saison, leader incontesté, donc voilà, ça permet au MVL de revenir dans la course, et donc tout va se jouer samedi contre Conflans, puisque les deux équipes sont à égalité à la quatrième place. On sait que c'est les quatre premiers qui sont qualifiés, donc il reste quatre matchs, et on imagine toute l'importance de ce match de samedi prochain, toujours à domicile. Donc Mende reçoit encore une fois samedi prochain à 20h30 au Piencourt.
Ouais, Luc.
Ouais, Constant nous avait dit qu'il n'aurait pas grand-chose à dire pour motiver ses gars pour le match de samedi. Bah, visiblement, effectivement, il n'y a pas eu grand-chose à faire, et c'est la preuve que effectivement cette équipe, quand elle est dans les meilleures dispositions, elle peut battre à peu près n'importe qui. Ils l'ont montré samedi, parce que c'était pas gagné.
Ouais, Patrick, tu parlais des absents. Ouais, deux absences pour Fréjus avec Jean de Dieu.
Ouais.
Donc pas nom de Dieu, Laurent. Jean de Dieu, leur central, et surtout l'ex-international français Loïc Gélier, on dit, qui est en convalescence.
Gélier, ouais. Montpellierain, originaire de Montpellier, qui a fait une carrière monstrueuse dans les plus hautes divisions françaises. Il a été international. Alors, pour la petite histoire, il s'est gravement blessé. Alors, je sais plus si c'est au genou ou à l'épaule. Et donc, il est allé en rééducation à Saint-Raphaël, au grand centre européen où il y a tout un tas de sportifs qui vont pour se rééduquer. Et donc, Saint-Raphaël étant mitoyen de Fréjus, bon, ben voilà, les dirigeants de Fréjus en ont profité pour l'engager. Et bon, c'est vrai que ça fait quand même un énorme joueur pour cette équipe. Bon, ça explique aussi pourquoi ils sont premiers avec de tels joueurs.
Ça veut dire que nous, on peut récupérer que ceux qui vont en Rodin, en fait.
Mm-hmm. C'est ça.
Voilà, c'est un peu ça. Ou la Chaldette pour ceux qui viennent okay, en remise en forme.
Ouais, Bagnoles. Un très bon Keïta aussi côté MVL ce samedi. Hein.
Oui, bon Keïta, bon Fodé, c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui. Moi, ça fait plusieurs saisons que, là, je parle personnellement, c'est plusieurs saisons que je le vois jouer. Et des fois, il est un peu en dedans. Il apparaît même un peu nonchalant. Et donc, c'est vrai que des fois, voilà, on a envie un peu de le bousculer. Mais bon, c'est un joueur hors norme. Hein, et on aimerait, bon, voilà, moi, j'étais pas là contre Fréjus, mais il paraît qu'il a fait un match titanesque. Et c'est vrai qu'on aimerait le voir à ce niveau-là tous les matchs. On sait qu'il en est capable. Et parfois, même certains matchs, moi, je l'ai vu cette année, il est même pas dans le 6 de départ. Donc bon, voilà. Alors que c'est un joueur qui devrait faire la différence à tous les matchs. Et bon, voilà, il est un peu irrégulier, mais bon, s'il revient en forme, c'est bien pour l'MVL parce que ça peut être le facteur X pour justement se qualifier pour les playoffs.
Laurent,
ouais, la semaine dernière, Constant Choisy, l'entraîneur, nous disait qu'il regardait pas le classement, mais bon, nous on le regarde.
Ouais.
Le Man Volleyball est repassé dans la catégorie haute, ouais. Dans la quatrième.
Ouais, pour les playoffs.
Tu peux nous faire un point sur le classement, Laurent?
Voilà, donc du coup, Fréjus est toujours premier, devant avec 24 points, donc il y a quand même de la marge sur Ilac, qui est 19e. Les Herbiers...
Non, deuxième avec 19 points.
19 points.
Ouais, remonte.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que 19e sur 8, c'est quand même pas facile.
Les Herbiers, troisième avec 16 points, et puis arrive à égalité Mand et Conflans, 14 points chacun. Où Patrick a dit tout à l'heure donc
le prochain grand match
pour continuer à rester dans le haut du classement, les quatre premiers, ce qui est certainement l'objectif. Ouais,
surtout qu'on arrive au terme de la poule, puisqu'il reste quatre matchs.
Il reste quatre matchs et en même temps, tout le monde peut encore se qualifier, parce que même Brive, bon, même si ça paraît assez improbable avec ses 9 points, mais peut encore se qualifier pour les play-offs.
Surtout Mérignac, qui est avant-dernier avec 11 points, ouais. Seulement 3 points d'écart avec le Mande Volleyball.
Avec Mande. Et 5 sur les Herbiers, qui sont 3e.
Quand on interroge tous les entraîneurs de cette poule, parce que donc on l'a compris, il y a deux poules au niveau élite. Bon, tous les entraîneurs sont unanimes pour dire que c'est vraiment la poule la plus relevée et de très loin. Et donc voilà, ça, c'est la fédération après qui répartit les équipes. Ça s'est fait comme ça. Et donc ça explique pourquoi c'est toujours si serré et pourquoi chaque semaine n'importe qui peut battre n'importe qui. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une poule vraiment hyper relevée.
Les poules, c'est par zone géographique, comment?
Non, puisque quand t'es en élite au niveau géographique, t'as à peu près des clubs un peu partout. Mais ce qui est bien, c'est que samedi le MVL aura son destin en main. S'il gagne contre Conflans et d'autant plus s'il gagne 3-0 ou 3-1, ça veut dire qu'ils pourront prendre un peu de large au classement. Donc c'est pas inintéressant.
Ouais. Alors, j'ai pas les résultats exacts, mais je sais que les féminines l'ont encore emporté, qu'elles sont en seconde, même peut-être première ex aequo. On a reçu un appel pour recevoir l'entraîneuse des féminines, donc on la recevra d'ici peu. On va essayer d'avoir le basket féminin, l'athlétisme, on s'était dit, et on reviendra vers le volet après. Voilà, donc match très important la semaine prochaine contre Conflans. Allez, avant de passer au rugby, vous suivez un peu les autres sports lausériens, les footeux? Je sais pas, Pierre, Mickaël.
Bien sûr.
Alors, on parle dans le micro.
On a des amis même dans certaines disciplines, donc on suit ça de plus ou moins loin. Dès qu'on peut, on essaye d'aller les voir. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à aller les encourager, quoi, dès que possible.
Ok, en rugby, honneur, 7e journée, le RCML perd de justesse face à Rive-d'Orbe, 18-15. On pourrait définir ce match par un bonus et des regrets. Alors, 3 essais pour Rive-d'Orbe, 2 pour le RCML, c'était un match de rattrapage. Il est à noter que le RCML se rendait à Rive-d'Orbe avec 8 absents, donc ce qui est énorme. Peut-être que les regrets sont là finalement, Patrick?
Oui, on peut imaginer qu'avec une équipe quasiment au complet, Mande aurait accroché la victoire en terre biterroise, puisque ce club-là, ils ont joué à Marossan, bon, c'est tout à côté de Béziers. D'ailleurs, à Marossan, il y a un super restaurant, c'est une petite dédicace
à ma femme,
elle adore ce restaurant à Marossan, donc voilà, c'est un clin d'œil que je lui fais. Donc voilà, pour revenir au match et au rugby, je pense que s'ils avaient été au complet, la victoire aurait été au bout, parce que bon, c'est une équipe qui est largement à la portée de Mande au niveau du classement, on le voit, ils sont même toujours derrière les Mandois, et donc voilà, il y avait la possibilité de faire un score, mais bon, c'est vrai que perdre 2-3 points avec une équipe romagnée, quand on sait là aussi, bon, au rugby, quand tu joues en B, bon, t'as pas vocation justement à vraiment jouer en A. Il y a vraiment un écart. Puis bon, même dans la façon dont t'appréhendes ton sport, bon voilà, tu signes, tu sais que tu vas jouer en B, voilà, t'as pas forcément envie de jouer en A parce qu'après c'est d'autres contraintes et d'autres bons chocs au niveau physique, etc. Donc les mecs, ils ont quand même fait l'effort de descendre. Tu perds 2-3 points, bon, ça prouve qu'il y a une énorme cohésion dans cette équipe, dans ce groupe. Bon, et comme nous avaient dit nos deux invités les semaines précédentes.
Ouais, Luc.
Ouais, ça, 8 absents sur un effectif qui est pas énorme. Hein, et comme disait Patrick, s'ils ont dû piocher dans la baie, 8 absents sur une équipe type, ça fait beaucoup. Et c'est quand même bien qu'ils arrivent à ramener ce point de bonus. Alors certes, de la déception parce que c'est une défaite de 3 points, mais puis c'est bien parce qu'ils reprennent des points, parce que là, je crois que ça faisait 2 matchs où ils avaient pris 0 ouais. points. Là, c'est bien, ça leur redonne un peu de confiance.
Mais il ouais. y a eu un regret, bon, d'après ce qu'on a dit, c'est cet essai à la fin de la première mi-temps.
Ce que j'allais te voilà, dire, ouais. Donc, on prend un essai bon, à la dernière seconde de la première voilà. mi-temps et un à la 73e.
Ça coupe ouais, les pattes, là. C'est comme un peu, on en reparlera avec la F1, mais tu prends un but juste avant la mi-temps à Andrézieux.
Exactement. Ouais.
Mais là, au rugby, c'est pareil, tu prends un essai quasiment sur la fin de la première mi-temps et bon, voilà. Alors que tu étais devant, tu pouvais passer devant à la mi-temps. Et quand tu vois que tu perds 2-3 points, eh bien, l'écart, malheureusement, il se fait là.
C'est un peu comme prendre un but après 18 secondes après le retour des vestiaires.
Ouais mais quand tu as Bielsa sur le banc de touche aussi.
c'est autre chose. Alors, au classement, le RCML rentre dans le rang, mais sans être décroché toutefois. Donc, Servian-Boujon, 17 points premier. Conques à 16 points second. Pratt-Pic-Saint-Loup, 15 points. Fleury, 14. Mende, 5e, 12 points. Donc, 5e sur 9. Égalité avec Sigean qui a 12 points, Plage d'Orbe 10 points, Rive d'Orbe 10 points et Bédarieux 7 points. Donc au final, on est à 5 points de Servian. Le premier, c'est pas
hyper serré, tout est hyper serré. Ouais. Alors, il y a un match ce week-end d'ailleurs, Mende reçoit dimanche à 15h, ils reçoivent d'Orbe aussi là, mais je crois que c'est l'autre.
Plage d'Orbe. Voilà, d'Orbe qui est à 10 points, qui est 7e.
Voilà. Son fameux restaurant d'ailleurs à Plage d'Orbe.
Non, celui-là, je ne connais pas.
Non, je ne connais pas ça. Allez, on passe au Hand. Une semaine après leur courte défaite à Annecy, les garçons devaient absolument se reprendre face à un concurrent direct pour le maintien. Et finalement, c'est une nouvelle courte défaite face à Meylan, 26 à 25. Alors, on a souvent dit dans cette émission que les Mandois n'arrivaient pas à finir leur match. Eh bien là, en plus, une très mauvaise entame, un 12-5 pour commencer pour Conflans. À un quart d'heure du terme, les Lozériens parviennent à égaliser 20 partout et prennent même par la suite l'avantage grâce à 2 buts consécutifs d'Antoine Soulier et de Fabien Marty. Et à l'entame des 10 dernières minutes, le MGC mène de 3 buts, 24 à 21. Et voilà, de nouveau à 5 minutes de la fin du match, en supériorité numérique, les visiteurs reviennent à la hauteur des Mandois et prennent l'avantage. Alors Luc, ça commence vraiment à sentir mauvais pour le maintien. Mende qui est dernier.
Non, parce que je pense qu'il y a encore de la marge, mais ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait pas tarder à gagner une paire de matchs, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils font le coup d'être devant et de pas réussir à finir leur match. Après voilà, le problème c'est que voilà, c'est toujours le même, c'est que visiblement il y a pas. C'est pas facile à l'entraînement de récupérer tout le monde, d'avoir un groupe. Ils sont une vingtaine. Hein.
Mais ça fait quelques matchs. Hein. Ils perdent d'un but, deux buts.
Pour en avoir discuté avec le coach, c'est que ouais, effectivement, il a son groupe une fois par semaine. Alors ils ont 3 entraînements par semaine. Il arrive à avoir tout le monde à peu près le vendredi, mais pour mettre en place et pour travailler des systèmes, c'est trop juste. Donc voilà, il faut peut-être espérer que tout le monde se reconcentre, se recentre un peu et réussir au moins à sortir de cette spirale-là et après enchaîner. Je pense qu'il y a le groupe a largement les capacités de se maintenir.
Patrick, tu es d'accord avec Luc ?
Moi, je dirais que la cote d'alerte est vraiment atteinte, hein, quand tu te retrouves dernier après combien 7 ou 8 journées.
Bon, oui, ça peut passer, ouais.
Voilà, c'est pas anecdotique, hein. Bon, c'est sûr qu'ils étaient derniers au bout de 2 matchs. Bon, ben voilà, c'est sûr, tout est à faire. Mais là, au bout de 7-8 matchs, ça commence à urger. Bon, après,
c'est des courtes défaites, là.
Voilà,
les dernières.
Les sportifs le savent bien. Quand tu as une confiance, bon, ben voilà, ça bascule toujours, de ton côté. Et puis là, quand tu es un peu dans le zag, eh ben, tu es encore plus dans le zag et voilà, il y a rien qui te réussit. Et bon, c'est un peu, c'est un peu ce qui se passe pour le MGC, mais il y a quand même quelque chose un peu d'inquiétant, parce que c'est vrai qu'on dit on dit qu'ils finissent mal, mais bon, maintenant ils commencent même mal. Donc ça fait maintenant quelques matchs où ils prennent un très mauvais départ, ils arrivent quand même à cravacher, bon, ils reviennent, et puis après le final leur échappe. Donc bon, voilà, les débuts de match, les fins de match, ça commence, ça fait beaucoup, quoi.
C'est sûr que si d'entrée tu commences à prendre 5 ou 6 buts d'écart, ça veut dire que tu vas forcer pour revenir et qu'à la fin, bah, t'auras peut-être pas les ressources pour conserver ton avantage.
Donc, parce que 7 buts d'écart, bon, c'est énorme. C'est comme si au foot, voilà, au bout de demi-heure, tu as 3-0. Et bon, à 3-0, à demi-heure pour revenir au foot, tu reviens une fois toutes les saisons, et encore. Bon,
oui, voilà, encore,
donc
c'est hyper
compliqué, quoi. Donc 7 buts en première mi-temps, le match est quasiment plié, quoi.
Ce qui est surtout dommage, c'est de pas réussir à gagner à la maison.
Ouais.
Toi qui es habitué à courir après le score avec l'équipe 3 de l'FL, Laurent, c'est difficile?
Non, il domine outrageusement. Il connaît pas ça.
Il faut rentrer tout de suite dans les matchs, c'est évident, surtout dans la position où ils sont. Le MGC, il faut des guerriers de la première à la dernière minute.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Au classement, Mané dernier, mais avec seulement un point sur l'avant-dernier, Courpierre, 2 points sur Fontaine, donc
3 sur Mélan.
Bon,
sur la mesure, on perd un point, 2 points, 3 points.
Oui, mais il y a pas
une série, quoi.
Voilà, il y a pas un écart. C'est vite dit, mais il y a pas un écart. Ils ont pas 10 points de retard. Ils sont pas largués. Mais effectivement, ça serait bien d'en gagner un ou deux avant la fin.
Voilà, à commencer par ce week-end avec un déplacement à Fontaine. Et tu regardes le classement, Fontaine, ils sont juste devant. Donc si tu les bats, tu passes devant, parce que Wand, tu as 3 points la victoire.
Ah, c'est 3 points la victoire.
Deux matchs nuls et un si tu perds.
Voilà. Donc si tu perds, t'es à 4 points par contre de Fontaine.
Si tu perds, ça devient compliqué.
Il avait dit là, ils avaient tout un tas d'une série de matchs contre des concurrents directs.
Ah, Mélan le premier.
Bon,
hein.
Voilà, tu perds à Annecy, bon, tu vois, classement à Annecy, ils sont juste devant aussi.
Mélan
aussi, puis là t'as Fontaine. Donc
c'est des tournants.
Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. On va parler justement des filles. En parlant de ne pas boire de l'eau, les filles qui s'imposent contre Jacou 26-21. Alors au classement, elles sont 4e, Montpellier 1er 25 points, Bellegarde 24 points, Lunel 21 points, Manda 20 points. Et on creuse un peu l'écart avec le 5e qui a 15 points, Saint-Aramon, Bouillargues 14, Clermont 11, Jacou 10 points. Donc la semaine prochaine, les filles se déplacent à Aramon qui est juste derrière. Un bon petit parcours, Patrick.
Ben oui, on a compris un peu la philosophie de cette équipe avec Marie Almeras qui était au micro il y a 15 jours. Bon voilà, on a compris que c'était un groupe vraiment pas trop étoffé, mais vraiment très solidaire avec des mamies, elles l'ont dit, des joueuses d'une quarantaine d'années. Bon voilà, c'est fabuleux de jouer avec des gamines de 20 ans et bon voilà, ça la mayonnaise prend et
on est d'accord côté invité à FL.
Oui. Et donc c'était donc leur première victoire.
Oui. Tu peux intervenir sur ça.
En parlant de mamie, donc je crois savoir qui c'est Sandrine Arthès, qui est ma collègue à la mairie. Donc j'en profite pour lui passer un petit clin d'œil à qui je charrie chaque week-end en fonction des résultats.
Voilà.
Et voilà,
qui va pouvoir te charrier cette semaine d'ailleurs, vu le résultat et le vôtre. Allez, on passe en basket. Alors, c'est un peu comme en handball. Les garçons perdent et sont derniers. Les filles marchent bien. Alors, tout d'abord, les garçons.
Non, mais un garçon en basket, là, vraiment, on atteint la première victoire.
On blague pas.
C'est
les play-dan. Faudrait les inviter parce qu'on les allume toutes les semaines, les garçons au basket. Et faudrait les inviter qui viennent se défendre. Ouais,
on a un invité permanent.
Là. Ils sont costauds, faites gaffe.
Oui, en plus, ils sont costauds. On va prendre le plus petit, le meneur.
Ça pourrait les rebooster. Hein. On a vu la semaine dernière avec Costan du Oman Volleyball. Oui. Ils éclatent après Fréjus.
C'est
intéressant.
C'est vrai,
c'est
ça.
Venir,
généralement, quand on a
des invités,
normalement,
samedi, vous gagnez. 5 ou 6-0.
Alors en basket, donc les garçons 73-54, ils s'inclinent face à Sauvian. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à dire, Luc?
Ouais, ils ont fait un super match. Franchement, ils ont fait
en tête à la mi-temps.
Non, ils explosent dans le dernier. Ils prennent 30-12 dans le dernier quart temps, donc c'est-à-dire 18 points d'écart.
Le money time.
Ouais, exactement, le money time. Donc les 19 points finalement, on les retrouve là. Non, ils ont vraiment fait un super match, plein d'engagement, plein de.
Sauvian second en classement.
Ouais, mais en plus c'est ça. C'est ça. Effectivement, il y a notamment ce panier, ce 3 points de Filippo Turatello sur le buzzer au milieu de terrain, un truc digne de la NBA.
C'est ce que tu fais, toi.
Et ça vaut 100 000 dollars. Hein.
Ça vaut 100 000 dollars, mais pas en championnat, en fait. Hein. Ça vaut que, en championnat, ça vaut 3 points, ce qui est déjà pas mal.
Ça vaut une défaite, en championnat.
Non, ils ont fait un super match. Enfin, 19 points d'écart, ça reflète pas du tout la physiodomie du match pour moi. Après c'est dommage, il craque, il manque 10 minutes, c'est embêtant, mais bon, c'est vrai qu'il y a 4 cartons dans un match.
Oui, et le quatrième est le plus important.
Il y a une info basket là aujourd'hui avec le tirage au sort de l'Euro qui va concerner l'équipe de France. Et en plus, on va l'organiser cet Euro au stade de foot de Lille. Bon, ça promet un spectacle complètement hallucinant. Et donc aujourd'hui, il y a le tirage au sort et donc. Voilà, c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Il y aura tout le monde par cœur. On espère que Noah, quand même, il va se réveiller et il va participer parce qu'avec Noah et sans Noah, c'est pas la même équipe non plus.
C'est sûr.
Donc, s'il y a Noah, c'est l'arme fatale, quoi.
Ceci dit, on l'a gagné sans Noah.
Ouais, mais enfin, bon, la seule compétition à laquelle il a participé, ouais. On a vu quand même tout ce qu'il pouvait apporter aussi bien en énergie qu'en rebond et qu'en point. Et bon, c'est quand même, à mon avis, le meilleur pivot français est de loin, même si les autres, même si
Rudy Gobert a fait du super boulot quand on n'aura pas été là. Et moi, je trouve ça un peu dommage, le mec qui arrive, qui loupe chaque compétition depuis, il n'y en a fait qu'une, hein, depuis cinq dernières années, et qui débarque en disant « Attendez, j'arrive !» alors qu'il y a des mecs qui se sont battus, qui ont gagné des médailles.
On est d'accord. Mais
en fait, il est le petit Noah, il est comme son père, quoi. Il est tente l'incruste un peu comme son père au tennis.
Son père a beaucoup joué un coup de tennis.
Le petit Noah qui a quasiment 30 ans,
l'actualité internationale nationale, c'est dans la seconde partie, messieurs.
D'accord.
Et pour ceux qui écoutent cette émission qui est rediffusée le mercredi à 18h10, Patrick Nebassou, hein, c'est que voilà, on est lundi, le tirage au sort a lieu aujourd'hui, mercredi bien sûr, vous serez au courant de ce tirage au sort. Ah, les filles qui s'imposent face en basket
Saint-Christol
64 à 55. Alors qui était face aux Gardoises qui était dernière de leur poule, donc elles se devaient de gagner, ça a été chose faite. Alors quand même un petit bémol, Julie dans Midi Libre d'aujourd'hui. En début de partie, les Lausériennes ne parvenaient pas à imprimer leur rythme et se laissaient distancer dans les 10 premières minutes. Leur coach, Luc Respon, changeait alors la défense pour passer en individuel afin de modifier le rythme de la partie. C'était une bonne solution. Bravo, Luc.
Merci.
Est-ce que tu sais pourquoi il privilégie l'individuel?
Je sais pas.
Parce que quand il est au Babylone, il fait aussi du marquage individuel.
Ouais, c'est ça, absolument.
D'ailleurs, ouais, il paraît qu'il y a une grosse soirée après samedi soir, mais on n'en parlera pas.
C'était pas mal.
Non, mais ça se fait souvent ce passage en individuel, en basket, en défense. En fait,
on a fait plusieurs essais en défense qui n'ont pas marché.
Laissez Luc parler, arrêtez.
Et c'est Laurent qui nous fait son habituelle chorégraphie du Babylone, apparemment.
Il connaît très bien. Pour aller à Andrézieux, on a eu 3 heures d'Energy Music Award, c'était la folie dans la bagnole.
Oui. Les gens l'entraient, donc vous connaissez Laurent Julien?
C'est ça.
Il n'est pas là.
La défense en individuel.
Ouais, la défense. On a fait plusieurs tentatives en défense, mais qui n'ont pas vraiment marché, du coup, puisqu'il y a eu jusqu'à 15 points d'écart, je crois, à un moment donné. Du coup, oui, la solution était de passer en individuel en milieu de deuxième quart-temps. On avait les filles, il y avait 10 filles sur le banc, sur la feuille de match. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'elles pouvaient courir et se donner à fond. Il y avait des remplacements qui étaient possibles. Donc, ouais, c'était la solution et surtout museler les deux trois bonnes joueuses de Saint-Christol. Après, c'était un adversaire qui était largement à leur hauteur.
Elles devaient gagner, elles ont gagné.
Mais c'est vrai que
Il y a des matchs que tu dois gagner et que tu gagnes pas.
Mais ça a été compliqué, hein, parce que je pense qu'il devait y avoir 15 ou 20 points d'écart en notre faveur à la mi-temps. Ça aurait pu permettre de faire tourner un peu les filles. Là, on s'est un peu mis la pression. Pas jusqu'à la fin, mais pas loin.
Laurent.
Au niveau du classement, donc vous êtes troisième, mais juste avec un point d'avance sur Alès, quatrième.
Oui, qui a un match de retard. Vigilant. Qui a un match de retard, Alès, en plus. Donc, ce qui veut dire que dans le.
On peut être quatrième.
Ouais, non. Enfin, si Alès gagne son match, elles passeront.
C'est contre qui leur match?
Contre Saint-Christol.
Donc quel risque de gagner?
Eh ben c'est pas gagné parce que justement
la coach
de Saint-Christol était très 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 motivée. Elles ont failli les battre au match aller.
Les derbies, enfin, c'est toujours compliqué.
Et donc elles étaient très motivées. Par contre, on peut quasiment dire que c'est mort pour la poule de montée puisqu'il reste qu'un match.
Il reste qu'un seul match. Voler en basket, ça va vite. Hein.
Ouais, dans cette première phase, il reste qu'un seul match. Et le fait que Latte se soit imposé ce week-end contre.
Ah, il n'y a que les deux premières qui sont.
Voilà.
Donc, du coup, ça veut dire que dans le meilleur des cas, même si la semaine prochaine on gagne à Frontignan et que Latte perde.
Peut-être qu'il joue à Lunel.
Non, elle ne joue pas à Lunel. Je pense qu'elle joue contre Saint-Christol.
Tout le monde joue contre Saint-Christol.
Non, c'est un match en retard.
On te parlait. Tu suis, s'il te plaît, Laurent.
Non, mais Alès Saint-Christol, c'est un match en retard.
Tu vas prendre
qui se jouera le 20 décembre.
Quoi qu'il en soit, si on se fait doubler par Alès et Latte, on peut jamais être deuxième.
De toute façon, Latte sera devant parce qu'au goal average particulier, elles sont devant. Donc, quoi qu'il arrive, on sera à égalité de points. Même si on est à égalité de points, on sera derrière.
En tout cas, Luc, c'est une belle saison. Si on est troisième, tu joues rien parce que du coup, tu joues pas les play-downs, mais c'est quand même une belle saison.
Si, on va jouer les play-downs. La poule de descendre, il y a une poule de descendre.
Tu as quand même constaté qu'à force. Luc, à force de regarder Bielsa, il passe à l'individuel. C'est ça.
Oui, voilà, j'ai jamais de ma glacière sur le banc de touche.
Tu as bien raison, mais par contre, tu n'as pas la même chose dans ta glacière que Bielsa, à mon avis. C'est un peu plus
par contre, je cherche quelqu'un qui veut m'amener le café à la mi-temps, ça, si quelqu'un peut se dévouer.
Ça, on lance un appel. N'hésitez pas à nous appeler 66 31 59 68 si vous voulez amener du café à la mi-temps de Luc. Allez, en football, une fois encore, la météo est venue perturber le week-end. Alors, de la neige qui a entraîné l'annulation de tous les matchs de football district et ligue, annulation de la rencontre de l'ANL prévue à Saint-Chély. Pour Marvejol Sport, qui devait jouer à Émargues, le terrain inondé n'a pas pu permettre la tenue du match, reporté au week-end à venir. Alors en Coupe de France, malgré un terrain pour le moins catastrophique, qu'est-ce qu'il y a, Laurent?
Non, je voulais juste parler du week-end prochain là, pour l'ANL qui se déplace à Lande, qui est deuxième au classement, avec un match ex aequo avec Arpajon, mais avec un match de plus. Donc encore un gros match pour le NL le week-end prochain.
Mais à Lande, à l'extérieur.
Mm. Ouais, si on peut préciser, tu as fait une petite erreur, Ludo. Tu as dit tous les matchs district et Lozère. Non, en district, ça n'a pas été annulé. C'est les championnats lozériens qui ont été et les coupes lozériennes qui ont été annulées. Oui. Par contre, en district, ça a été annulé au cas par cas. Et donc il y a quand même des clubs lozériens qui ont joué, en particulier l'ASTT en première division, qui jouait un championnat contre Bouzé-les-Alès et qui a gagné 8-1, donc super performance de l'équipe de Florac, fait l'entente Florac-Ispagnac. Et donc voilà, il fallait le souligner. Il y a quand même eu quelques matchs qui se sont déroulés en district à Lozère.
Merci Patrick d'être aussi pointilleux, c'est pour ça que tu es dans cette émission.
Coupe de France. Beaucoup moins pointu la semaine dernière.
Oui, la semaine dernière. Il paraît qu'on l'a vu devant le Louvre, devant la CAI, se balader, titubant, mais bon, on dira rien.
Ouais.
On dira rien. Allez, par contre, on va dire sur l'effet de la Coupe de France. Alors, donc, un terrain qui, lui, ça n'a pas été annulé, mais le terrain, il était un peu catastrophique, je le dis, pour m'y être rendu avec Laurent. Le match donc n'a pas été annulé, c'est bien dommage. L'aventure s'arrête là pour l'AFL après la défaite de ce samedi 2-0 face à Andrézieux au 8e tour de la Coupe de France. Donc but à la 45e de Mangara et à la 52e de Barge. Donc un match compliqué. Donc Mickaël, toi qui a été sur le terrain, comment t'as vécu ce match?
Forcément très difficile. On peut dire que cette équipe d'Andrézieux avait mis un pressing collectif très très haut. On n'a pas d'excuses puisqu'on était au courant de ces informations. Je peux les féliciter pour ça puisque ça a eu comme effet de nous étouffer complètement. On n'arrivait pas à se trouver. Les liaisons entre la défense, le milieu et l'attaquant n'étaient pas super bonnes. Notre bloc était toujours bas. On n'arrivait pas à garder le ballon devant. Extrêmement difficile.
Ouais, en regardant le match, enfin en commentant le match d'ailleurs avec Laurent, se demander si c'est Andrézieux qui vous étouffait ou si également vous avez fait un non-match. C'est un peu des deux ou pas? Ou vous avez fait ce que vous avez pu, mais finalement vous pouviez rien faire?
On a tout donné. Je pense que c'est cette équipe d'Andrézieux qui a réussi justement à nous faire déjouer. On n'a pas su mettre en place, comme chaque week-end, notre plan de jeu. Peut-être le terrain était difficile, mais c'est surtout cette équipe qui nous...
Donc, en fait, je reviendrai sur ce que tu disais tout à l'heure, le pressing très haut. Il faut savoir que c'est très compliqué à faire déjà dans le football, un pressing très haut. Et cette équipe d'Andrézieux l'a très bien fait, et d'autant plus tout le match. Moi, j'avais espoir que deuxième mi-temps, il baisse d'un ton physiquement. Mais ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais eu la possibilité de pouvoir développer... du foot, comme on le voit tous les dimanches finalement.
À relativiser, puisqu'en en seconde mi-temps, quand même, on s'est créé beaucoup plus de phases de jeu et plus d'occasions. En première mi-temps, j'ai pas le souvenir d'avoir tiré un seul faux but.
Le terrain, même s'il était le même pour les deux équipes, qui était la pelouse, qui n'était pas une très très bonne qualité, visiblement, ça vous a gêné, vous ? Je sais que vous aimez bien avoir un jeu assez court.
C'est notre fond de jeu. Il nous faut, si on a une pelouse qui permet de jouer au sol, c'est notre manière de jouer. Si le terrain est beaucoup plus gras, qu'il faut être beaucoup plus costaud, c'est vrai qu'on a quelques difficultés.
Pierre, toi, du bord du terrain, comment t'as vécu ce match ? Alors, on rappelle que tu jouais pas, tu étais suspendu.
J'étais suspendu, tout à fait. Moi, j'étais malgré tout serein avant la rencontre, puisque je savais que c'est Michael qui allait me suppléer. Mais du bord du terrain, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que un match comme ça déjà on n'en joue pas souvent c'est vraiment ces moments-là qu'on a envie de partager avec nos copains quand on joue au foot. Donc voilà, c'est hyper frustrant et d'autant plus quand ça se déroule de cette manière-là quoi. C'est vrai que Michael l'a dit, ils nous ont complètement étouffés. Et du bord du terrain, on a d'autant plus envie de rentrer pour aller aider ses copains.
Stéphane, à la fin du match, disait, c'est là, je le dis depuis le début de la saison, attention, il y a un écart de niveau entre les CFA 2 et la division à laquelle on joue actuellement. Là, on l'a clairement vu, quoi. Ça va vite.
Et c'est vrai que moi, du bord du terrain, c'était quand même assez frappant. Voilà, ils ont vraiment des qualités qui sont meilleures que nous. Alors jusqu'à présent, on a aussi pu démontrer que à travers des ressources aussi mentales, une grande solidarité, on était capable de renverser des équipes qui étaient à la base supérieures. Mais voilà, là, sur ce match-là, ça l'a pas fait. C'est vrai que je sais pas qu'est-ce qu'il a manqué. Est-ce qu'on a manqué de détermination, de concentration,
voilà, d'agressivité, peut-être un peu d'agressivité.
Nous, on attendait des tampons, là. On le disait à l'antenne. On veut des tampons.
Mais bon, c'est pas.
Non, mais c'est pas le jeu aussi. Ça a été un match très courtois, un très
bon. Oui, enfin, ça t'empêche pas de mettre le pied. Pas comme notre ami Verratti du PSG, certes, mais.
On y reviendra dessus. Patrick, une question ou une analyse ?
Moi, personnellement, c'est vrai que j'y croyais énormément. Hein. C'est vrai, peut-être qu'on a été aveuglé par ce classement d'Andrézieux dernier, avec une seule victoire en 10 matchs. On avait plutôt l'impression d'un club en perdition, quoi.
Mais visiblement, Ludo, ça reflète pas leur niveau de jeu, cette dernière place.
Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'ils ont eu plein d'absents, la quasi-totalité des recrues, 8 absents depuis le début de la saison, qui reviennent au fur et à mesure, dont Barge qui est revenu depuis
les 3 matchs. Attaquants qui jouaient pour la première fois ensemble depuis le début de la saison.
Donc c'est vrai que ça nous a peut-être un peu aveuglé, ce classement, parce que c'est vrai que quand tu fais une victoire en 10 matchs, tu as l'impression d'un club et d'une équipe qui est complètement à la rue. Alors même si on sait qu'Andrézieux a failli monter les deux années précédentes,
qui construisent
un stade pour être aux normes du national. Bon, quand tu es dernier de CFA2 et que tu construis un stade pour être au niveau du national, bon, c'est vrai que ça peut paraître complètement anachronique. Mais bon, donc ça peut nous être aveuglé, mais il n'empêche que bon, moi j'y croyais énormément. Hein, j'ai toujours dit qu'il valait mieux tomber contre Andrézieux plutôt que d'aller à Andoum ou en Corse à Borgo ou ce genre de truc. Bon, c'était des adversaires que tu aurais pu tomber parce que tu étais dans cette poule là. Bon, voilà. Après, les échos que j'ai, c'est que bon, il y a pas eu photo. Hein, Andrézieux était largement supérieur. Alors après, il y a un débat qui est lancé. Moi, j'écoute pas mal de monde des supporters qui sont dans les tribunes. Alors après, il faut en prendre un laisser, certes, on est ok, mais bon là, après le match, j'ai eu des contacts avec 4-5 supporters qui m'ont tous dit la même chose. Il y a le coach qui a lancé cette année une nouvelle tactique avec 3 défenseurs. Et bon, voilà, alors dans les tribunes, tout le monde dit comment arriver à marquer des buts avec 3 dans l'axe, 2 sur les côtés, Fadil assez isolé en attaque. Alors après Bon, je lance le débat amicalement, hein, on le comprend.
Non, mais on est, comprend on, bien, on est là pour ça.
Mais je pense que toi, dans les tribunes, si tu étais au match, tu as dû l'entendre. Enfin, voilà.
Ah, non, mais là,
il y a pas mal de personnes qui
il joue en 4-4, il joue à 4 derrière, là, hein, ce match. Hein, tu...
Non, 3-5-2 aussi. 3-5-2 depuis le début de la saison.
Le fait qu'on était.
On était acculés, on était plus nombreux. On était plus nombreux derrière.
Après, je suis pas certain que ça ait une influence sur les qualités offensives de l'AFL. Il marque quand même toujours à peu près autant de buts que les autres années.
Mais on va entendre les joueurs sur cette nouvelle
tactique. En plus, ça les défenseurs là, donc c'est vrai que depuis le début de la saison, ils sont obligés de s'adapter à une nouvelle forme de jeu. Quoi.
Les derniers matchs, ça a marché pour l'AFL. Bon, mis à part Poland. Cette nouvelle tactique, je sais pas qui veut parler de vous deux. Allez, Mickaël, c'est pour toi. Comment vous la ressentez ce positionnement de l'équipe?
Ben moi, tout d'abord, j'ai un œil extérieur puisque j'étais blessé jusqu'à samedi dernier, donc c'était mon premier match avec ce nouveau dispositif. Je sais que j'avais joué auparavant à Aurillac dans ce dispositif-là. Je sais qu'il faut absolument maîtriser ce système, surtout derrière dans la ligne défensive puisqu'on peut être pris de court, notamment sur les côtés. À partir du moment où on maîtrise ce système, par contre, je sais qu'il peut être extrêmement dangereux avec l'adversaire.
Il y a beaucoup d'entraîneurs, de grands entraîneurs, de grands clubs mythiques qui disent que c'est le meilleur système de jeu.
Je crois que
le leader du championnat de France l'utilise assez fréquemment.
Mais là, bon, c'est encore pire parce que c'est 3-3-3-1. Mais c'est vrai qu'il joue à 3.
Il joue à 3 derrière aussi.
Il joue à 3 dans l'axe, c'est incontestable.
Pierre, toi qui as joué depuis le début de la saison quasiment ce système de jeu, ça te tue. Par rapport aux critiques où on dit ben on se procure moins d'occasions, c'est plus difficile pour les attaquants, comment tu le ressens toi? C'est vrai ou pas du tout?
Je sais pas si c'est plus difficile pour les attaquants. En tout cas, il a fallu quand même beaucoup travailler ce système et on arrive à être de plus en plus à l'aise d'après moi dans ce système là où je trouve qu'on est vraiment très costaud. Bon, Mickaël disait ça, le petit bémol c'est que voilà, on peut être en danger sur les côtés. Donc ça c'est sur l'aspect défensif, puis après offensivement je crois que on peut être capable de s'adapter à tous les systèmes, surtout quand on voit les joueurs qu'on a au milieu de terrain et devant. Donc je peux pas dire que ça nous rend inoffensif. Après voilà, c'est peut-être ce temps d'adaptation qui va faire que ça sera bien en place dans quelques temps.
Et le problème aussi c'est que dans ton 3-5-2 il te manquait un attaquant samedi, et Laurent, je sais pas si tu te rappelles le match, on en discutait, c'est Laurent qui le pointait du doigt. Le match aurait peut-être pas été pareil parce qu'il y avait de longs ballons devant, et on sait que c'est pas le point fort de Fadil.
Tous ces longs ballons qu'on a vus, puisqu'on n'arrivait pas à relancer court comme vous le faites habituellement. C'est long ballon à destination de Fadil. Bon, il était entouré de 3-4 gars tout seul. Au pire, il arrivait à le dévier. Et pour qui? Pour personne. Donc, c'était voué à l'échec, quoi, offensivement. Bon, c'était ce match.
Non, mais c'est vrai que ce 3-5-2, bon, ça demande beaucoup de travail aux entraînements et de feeling entre les joueurs pour arriver à le maîtriser. Mais bon, c'est vrai que ça provoque aussi un jeu qui est alléchant, hein. Faut le dire, hein, parce que bon, les trois sont dans l'axe, mais après ça, on a bien compris, Stéphane Sora insiste beaucoup là-dessus. Bon, les arrières latéraux, bon, que ce soit Brieux, Le Corvezier, Yann Combo ou Dimitri Contreras, ils sont vraiment au bord de la ligne de touche, en position avancée. Ça fait des décalages, ça fait jouer à terre, avec les milieux de terrain. Bon,
c'est des joueurs de couloir.
Bon, ça procure du beau jeu, ouais. C'est vrai. Du jeu de passe à terre. Bon,
voilà. C'est vrai aussi que l'AFL a les joueurs pour faire ça. Que ce soit, enfin, les trois, c'est des joueurs qui peuvent, qui ont le coffre déjà parce qu'il faut quand même faire les allers-retours. Et la qualité aussi pour les centres.
Par contre, ce système de jeu est intéressant. Donc on l'a vu à domicile plusieurs fois. Mais quand on fait pas forcément le jeu à l'extérieur, en général, on sait que c'est plutôt l'équipe à domicile qui doit jouer. Est-ce que vous pensez, donc messieurs, tous les deux, qu'à l'extérieur, il faudrait pas avoir un autre fond de jeu finalement, quoi, mettre un défenseur de plus,
8-2.
Je sais pas, c'est vrai. Non, mais c'est une idée parce qu'on voit que finalement, à l'extérieur, pour l'instant, depuis le début de saison, on n'a pas tellement de résultats, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de gros résultats, même dans l'ensemble, on n'a que des mauvais résultats à l'extérieur. Après, est-ce que ça vient du système? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'a priori, on est capable de reproduire ce qu'on fait à la maison, on est capable de reproduire à l'extérieur. Après, là, sur ce match d'Andrézieux, c'est vrai qu'il y avait un terrain qui n'était pas évident. On a souvent trouvé des joueurs de haut jeu. Et puis, comme l'a dit Mika encore une fois, il y avait un pressing collectif d'Andrézieux qui était vraiment énorme. Et moi, je l'ai bien vu là depuis l'extérieur du terrain, quoi. Dès qu'un joueur recevait le ballon, il avait deux trois joueurs d'Andrézieux qui venaient le presser fortement. Donc après, je pense que sur des matchs de championnat, ce sera peut-être plus facile de développer du jeu que sur ce match d'Andrézieux. Et puis après, encore une fois, c'est le coach qui voit, mais c'est pas un système qui sera mis en place définitivement, a priori, quoi.
Mmh. Luc, sans parler de système, ce but-là, juste avant la mi-temps, ça vous fait mal, Mika ?
Inconsciemment, évidemment, que ça nous a fait très mal. Après, les discussions qu'on a eues à la mi-temps, avec toutes les occasions qu'ils ont eues et nous, les problèmes qu'on a eus défensivement... C'était mérité. On a même pu repartir à la mi-temps avec 2 ou 3-0.
Ça a dû gueuler un peu à la mi-temps, non ?
Non, pas du tout. Il a été il est resté raisonné, essayé de nous remotiver. Il sait que cette équipe a été au-dessus de nous, a montré beaucoup plus de qualité et il a essayé de nous, justement, redonner espoir. Ouais.
D'accord. Laurent ?
Donc, peut-être pour conclure, je sais pas, on est un peu tous déçus de ce résultat, évidemment. Mais il faut pas oublier que quand même on est arrivé au 8e tour de Coupe de France, qui est très rare dans un club amateur de notre niveau, que ça fait déjà 3 saisons qu'on le touche. Bon, l'année dernière 7e tour et l'année d'avant une année exceptionnelle. Donc on est un peu dur, peut-être on a été un peu dur samedi au match tous les deux.
C'est-à-dire qu'ils nous ont habitués, ils nous ont mal habitués,
mais il faut quand même soulever que 8e tour, c'est un très beau parcours.
À noter que l'entraîneur d'Andrézieux disait à la fin du match, en aparté à Laurent et à moi-même, que c'était leur meilleur match de la saison, hein, Andrézieux.
Oui, après on sait que c'est ce match-là, ce tour-là de Coupe de France, c'est peut-être le plus important pour les trois quarts des clubs d'amateurs, parce que c'est sur celui-là où... Ah bah, après c'est janvier, c'est les Ligue 1 qui rentrent, donc voilà. Juste parce que j'ai reçu un message de Stéphane hier, peut-être tu l'as reçu aussi Patrick, je sais pas, donc qui voulait que, enfin voilà, les joueurs se joignent à moi pour remercier les quelques 200 personnes qui sont déplacées entre les yeux hier pour nous soutenir. Alors donc samedi, vous étiez nombreux à avoir bravé le froid, les routes enneigées, vous avez démontré votre attachement et votre soutien à l'équipe et au club de l'AFL. Nous aurions vraiment aimé vous offrir cette qualification pour le prochain tour, mais nous n'avons pas réussi à bousculer une belle équipe d'Andrézieux. L'aventure est terminée en Coupe de France, mais nul doute que ce parcours nous aura permis, encore une fois, de continuer notre progression. L'AFL devient année après année un club reconnu hors de notre région, place maintenant au championnat. Nous ferons le maximum pour vous offrir nos deux prochaines victoires en championnat avant la trêve hivernale. Voilà, nous aurons encore besoin de votre soutien pour rivaliser avec les meilleures équipes de la région. Et ça, on l'a pas dit, mais il y avait quand même à peu près 200 personnes qui sont venues soutenir l'AFL. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, on n'aurait jamais vu ça.
On a gagné le match des supporters. Ce qu'on a dit, qu'on a commenté le match.
C'est vrai qu'il y a une attente énorme du public ici à Mende et en Lozère, parce que bon, les jours de match de l'AFL, il y a pas que des Mendois dans les tribunes. Ça vient de partout. Il y a une attente énorme d'accéder à ce CFA2 pour avoir les réserves pro et puis voilà, un niveau supérieur. Ouais, c'est vrai que ça serait génial et tout le monde attend ça, cette montée CFA2.
Et je crois aussi en premier lieu pour les joueurs, parce que depuis 3-4 saisons, ils ont quand même démontré que c'était un super groupe aussi, et je dis pas ça parce qu'ils sont là, et que je pense que ce groupe, même s'il a connu des modifications, mérite aussi de monter à l'étage supérieur.
Ouais, et il faut pas oublier, comme le dit souvent Stéphane, on joue quand même contre une équipe d'une division au-dessus. Oui, et c'est pas rien, parce qu'on a l'impression qu'on va passer, mais à tous les coups. Mais
voilà, c'est vrai, quand on dit que vous nous avez mal habitués, c'est vrai qu'à battre Agde, qui était en CFA l'année dernière, en CFA de cette année, ou avoir fait des exploits, on a l'impression, finalement, quand vous êtes tombé le tirage sur une équipe qui était dernière de CFA 2, que c'était bon, c'était gagné, alors que non, il faut quand même se rappeler que, jusqu'à preuve du contraire, le CFA 2, ça reste quand même au-dessus de la DH, quoi qu'il arrive.
Ok, super. Merci à vous les gars. Vous restez avec nous. On va parler de l'actualité nationale, internationale et notamment du foot. Avant cela, on va faire une courte pause musicale et on revient.
On écoute André Rieu
de suite après. On n'écoute pas André Rieu. On écoute, je sais même pas ce que j'ai mis, John Butler Trio, un groupe que tu adores, Luc.
C'est vrai.
Allez, c'est reparti avec l'actualité nationale, internationale. Ça parle foot pendant la mi-temps, ça parle foot et vin. Allez, les résultats de ce week-end, Laurent, la Ligue 1, ça donnait quoi ?
Voilà, mais alors ça a donné que Monaco est allé gagner à Toulouse 2-0. PSG a difficilement battu et malhonnêtement le club de Nantes 2-1. Bordeaux a gagné Lorient 3-2. Caen a perdu à domicile contre Nice 3-2.
Alors ça j'en dirais un mot.
Alors Rennes qui perd à domicile contre Montpellier 4-0. Saint-Étienne bat difficilement Bastia 1-0. Et Vientonnant perd contre Lyon à domicile 3-2 dans les arrêts de jeu. Lens et Lille match nul 1-1. Reims perd à domicile contre Guingamp 3-2. Et Marseille éclate Metz 3-1.
Alors pour revenir sur Caen-Nice, il faut savoir qu'on était sur la route enneigée avec Laurent, au retour d'Andrézieux où on galérait, où Nice perdait 1-0 et là les commentateurs d'une radio nationale disent « Ah ben maintenant les cotes changent, si vous pariez sur Caen, c'est x4 » et Laurent me dit « Mais il faut parier 10 euros, c'est sûr ils vont gagner ». On s'est quitté avec Laurent Amande, il y avait 2-1 pour Caen, donc il m'a dit « T'as vu bon, ?» Il était pressé parce qu'il voulait voir Miss France. Eh bien 3-2 au final, Laurent, t'as bien fait de pas parier. Hein.
Ouais, c'est ça.
Alors on voit que ça continue à se tenir en tête hein, avec Marseille, Paris, Lyon. Saint-Etienne revient bien, Patrick à 32 points, Bordeaux 31. Voilà, hein, le groupe de 5 équipes qui se tiennent.
Oui, les 5 premiers, si tu regardes bien le classement, les 5 premiers ont quand même fait un petit écart par rapport aux autres. Donc ça va se jouer entre ces 5 équipes à mon avis pour les places en Ligue des Champions. Donc voilà, tout le monde a gagné ce week-end avec des matchs bien sûr différents par rapport aux équipes. Bon, Laurent l'a dit, Paris perd 1-0 au bout, d'entrée de jeu. Après, il y a ce tacle de Verratti. Bon, tous les anciens arbitres qui sont consultants sur les différentes chaînes ont bien sûr dit que ça méritait un carton rouge sans problème. Sur le coup franc qui suit, Nantes marque le deuxième but. Il refusait, donc ça aurait pu faire 2-0 à 10. Bon, là, c'est plus le même match, mais avec Ibra.
Ça s'équilibre, Patrick.
Voilà. Ça s'équilibre sur une saison, c'est clair.
Il faut arrêter de faire le procès à PSG parce qu'on voit les matchs où Cavani est expulsé.
C'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Bon, après, voilà, sur ce match-là, c'est vrai qu'il y a eu quand même un coup de pouce de l'arbitrage pour le PSG. Voilà, ça va être serré. Il reste deux matchs avant la trêve. On verra bien qui sera champion d'Europe,
champion d'Europe à tout de suite. Après, je pense que Paris et Marseille sont un peu dans la même situation. C'est-à-dire que même si ils ont gagné Marseille 3-1 hier, ça a été beaucoup plus compliqué que le score laisse paraître, hein, parce que Metz a fait beaucoup mieux que se défendre. Et franchement, les Messins ont fait
cette grande équipe de Metz.
Super match. Il y a un bon match de Metz. Il y a Mandanda qui sont un ou deux ballons. Et je pense que Paris et Marseille sont un peu dans la même situation. Alors, Paris qui a du mal à gagner ses matchs, qui gagne à l'arrache en faisant des mauvais matchs. Et Marseille qui est
une des seules équipes invaincues d'Europe. Hein,
c'est la seule parce que Chelsea a perdu.
Ah oui, Chelsea a perdu. Ouais.
Et Marseille, différemment, qui a aussi du mal à gagner ses matchs, mais en se créant beaucoup plus d'occasions et en ayant un jeu qui est effectivement beaucoup plus sympa, mais c'est vrai que par contre il y a un super duel en tête de championnat et il y a trois équipes qui suivent derrière et ça donne effectivement un championnat qui est très très intéressant cette année.
Pierre, Mickaël, vous supportez qui comme équipe au niveau national? Pierre, on commence par toi.
Moi, je supporte l'AS Monaco.
L'AS Monaco, très bien, c'est une première dans cette émission, Mickaël.
Pas un grand supporter, mais Marseille.
Marseille, d'accord. Alors
Pierre, t'as dû être content de voir le super but de Berbatov ce week-end.
Ah oui, un chef-d'œuvre. Hein.
Vraiment très, très magnifique. Très
beau, il faut qu'il remette le même mardi. Et
voilà, on voulait m'inspirer de ces extérieurs du pied droit, là, Pierre.
C'est pour ça que tu me parlais des pronostics. Parce que je disais, on va pas pronostiquer Monaco comme on se plante toujours, mais si, on va le faire. Alors justement, on se rappelle d'ailleurs du très certainement 3-0 pour le Bayer Leverkusen qu'avait pronostiqué notre ami Laurent Julien.
Qui est vraiment très très bon à niveau Paris en ce moment.
Alors Lyon qui l'emporte sur le fil 3-2 hier face à Evian, un doublé de Lacazette encore, hein, Patrick. Hein.
Voilà, une décision aussi à la 94e. Bon, pour moi, il n'y a pas main. En plus, là, les défenseurs, deux défenseurs à côté, si on siffle un pénalty à la 94e pour un ballon qui leur arrive quasiment sur la poitrine, je pense qu'ils sautent de suite sur l'arbitre, à mon avis, quand même à juste titre. Voilà, là aussi, c'est dur pour un arbitre de faire basculer un match sur une décision comme ça, à mon avis.
Et il y avait eu avant aussi le vilain coup d'épaule de Lopez sur...
on rit parce que les gens lèvent la main dans ce studio pour avoir la parole.
Je
et
me
donc,
suis fait griller par...
Laurent s'est fait griller totalement.
Non, c'était pas ça. Non, en fait, je voulais dire, par rapport à cette fameuse main, l'entraîneur Duprat de Evian a eu une très belle anecdote en disant que lui, avec son épaule, il n'arrivait pas à couper sa viande. Quoi. Donc, c'est pas une main pour lui. Quoi.
D'accord, Luc.
Oui,
merci, Laurent.
Non, mais c'est très juste.
Et je voulais juste en profiter pour souligner le doublé de Cédric Barboza et notamment son super coup franc. Voilà, donc
oui,
petit coucou à mon ancien camarade de classe de lycée.
C'est bien, on va parler des camarades de classe. Montpellier 4-0 à Rennes, grosse surprise. Hein. Là, des sous à Paris.
Patrick parle de ses restaurants, j'ai le droit de parler de mes anciens camarades de classe.
Tu as bien raison, Cédric Barboza qui fait une très belle carrière à Montpellier en plus.
Oui. Ouais.
Patrick 4-0.
Non, mais ça a été une surprise énorme parce que Rennes bon, marche la folie avec un joueur Entep, à mon avis, qu'on va retrouver dans des top clubs très rapidement. Ça sera une des. À mon avis, un des meilleurs joueurs en Europe, à mon avis, sans problème, hein, parce qu'avec le jeu qu'il a, une vitesse, et puis en plus, il est pas maladroit des pieds. Donc, à mon avis, il faut vite le faire jouer en équipe de France pour pas qu'il parte dans son pays d'origine,
Il est international espoir, hein, déjà.
Ouais. Mais bon, donc.
Moi, je crois qu'il est plutôt attaché en plus au maillot de l'équipe de France.
Bon, moi, si j'étais Deschamps, les matchs amicaux, ça compte pas. Donc,
c'est déjà pas mal, les matchs
amicaux. Mais à mon avis, celui-là, il faut le bloquer parce qu'on va en entendre parler énormément parce que le jeu qu'il a, c'est complètement atypique. Et puis, dans le football moderne, c'est l'arme absolue parce que quand tu as la vitesse et en plus, tu centres, mais pas n'importe où, là, c'est le nec plus ultra.
Alors, on va parler de... Oui, Luc, tu veux dire un dernier mot sur...
Parler sur Montpellier et le gros match de Lucas Barrios qu'on attendait.
C'est un collègue de classe de Patrick.
De Patrick.
Ah oui, si, à Moscou.
Non, qui marque son premier but et une passe décisive qui a fait peut-être le déclic.
Et pour, pas trop tôt, hein, parce que j'ai vu les précédents matchs.
Non, mais il faut leur laisser le temps aux recrues. C'est comme à la FL, c'est pareil. On a des recrues, il faut leur laisser le temps.
Il est resté quand même quasiment 2 ans sans jouer. Hein. Barrios, il a fait 2 saisons pratiquement blanches, en Chine notamment, qui est quand même pas facile.
C'est pas faux. Allez, en championnat espagnol, Barcelone, le derby catalan hier. 5-1, gros match de Barcelone qui revient. Alors, ça va nous pousser aux pronostics. Avant les pronostics, Barcelone, ça va être dur, hein, Patrick, là, s'il joue comme ça.
Oui, à mon avis, ça va être dur. Mais bon, après, tout est possible. Paris, je pense, est transcendé quand ils jouent à la Ligue des Champions. Ils ont des joueurs, hein, voilà, qui sont internationaux et qui sont pas nés en France. Donc, à mon avis, voilà, le championnat de France, ils sont moins motivés, voilà. Et donc, après, voilà, ils jouent au Brésil, etc., les Pays-Bas. Donc, voilà, la Ligue des Champions, c'est leur truc. Donc, à mon avis, ils fourniront une autre prestation, mais c'est vrai que ça va être compliqué.
Ouais, on va pas se cacher qu'il y a quand même 2 PSG, celui qui joue en championnat et celui qui joue en Coupe d'Europe. Celui qui a battu l'Ajax, Barcelone au match aller est capable de faire un match nul ou de perdre contre Lorient ou Evian. Je pense que celui qui va jouer, si c'était celui, le même PSG qui joue tous les samedis que celui qui joue en Ligue des Champions, je pense qu'il serait peut-être pas là. D'ailleurs, il y avait 7 ou 8 changements, hein, contre Nantes. Hein.
Mais si on peut ajouter un truc, moi je voulais dire qu'on a une chance quand même inouïe de vivre à cette époque où il y a 2 joueurs hors normes qui sont dans le même championnat. Voilà, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Messi. Bon, des super joueurs, il y en a eu, mais en principe, ils se suivaient les uns après les autres. Bon, Pelé, Maradona.
Ils jouaient pas
l'un contre l'autre. Alors que là, ils sont dans la même période. On peut vraiment comparer, voilà, le nombre de buts, le nombre de titres et puis bon, chaque semaine, c'est un enchantement. Bon, voilà, il y a 2 buts, 3 buts. Enfin, Ronaldo, je sais pas, 20-21 buts sur 15 matchs. Enfin, bon, il marque plus d'un but par match. C'est hallucinant, quoi.
Mais même en Ligue 1, hein, on a une saison qui est assez extraordinaire, hein, entre, on a vu Berbatov qui est capable du meilleur, Ibra, Payet à l'OM qui fait une saison extraordinaire, Gignac qui marche un peu sur l'eau aussi.
Daniel Valls aussi, qui marque des coups francs.
Qui marque des magnifiques coups francs.
Passons. Pour vous aider, les gars, on va faire il faudrait faire un jingle pronostic. Hein, je vais m'y atteler pour la semaine prochaine.
Au niveau international, on parle que de foot aujourd'hui ?
Non, c'est pour ça. Il faut passer au pronostic vite fait. Alors, Pierre et Mickaël, pour vous aider, on va changer un peu. On va commencer par les pronostics de Laurent. Donc, il faut dire complètement le contraire de Laurent pour avoir juste. Laurent, Barcelone-PSG.
Voilà, Barcelone-PSG, je ne suis pas complètement convaincu. Mais je mettrai une pièce sur Barcelone qui va gagner 2-0.
Luc,
un partout.
2-1 pour le Barça.
Pierre,
du coup, je vais dire le 2 partout qui n'a pas été dit encore.
Mickaël,
1-0 pour Paris Saint-Germain.
Ou bien, allez, un partout pour Barça PSG. Moi, je suis Luc. Monaco, Laurent qui joue contre qui?
Zénith.
Saint-Pétersbourg.
C'est le match de la qualif.
C'est le match de la qualif. À domicile.
Oui.
À domicile.
Alors,
Laurent.
Mouille-toi,
Laurent.
Je me mouille. Allez, non, je mets un parce que Monaco marque très peu de buts.
Alors, à domicile, est-ce qu'il y aura plus de Russes que de Monégasques? Ça, c'est quand même la question. Alors,
ne ratez pas les tribunes VIP avec justement les Russes. Ça promet un sacré spectacle.
Avant peser lourd les tribunes VIP. Je dirais 2-0 pour Monaco.
Oui, moi, je vois Monaco passer. Ils ont besoin d'un match nul, mais 1-0, je vois, pour Monaco.
Moi, je suis d'accord avec Patrick, 1-0, mais dans les tribunes de Monaco, on pourra peut-être retrouver les fameuses Miss France que vous...
Voilà.
Avec les Russes, d'ailleurs.
Mickaël, voilà. Score.
Et 3-1 pour Monaco.
Allez, 2-1 pour Monaco. C'est fini pour les pronos, on écoutera la bande la semaine prochaine pour savoir. Allez, vite fait, parce qu'on est déjà quasiment à la bourre, on va parler d'handball et qu'on peut noter l'exploit de Montpellier qui sont allés s'imposer à Selge. Alors, j'arrive jamais à le dire, c'est Selge qu'on dit, Luc ?
C'est lié.
C'est lié. C'est lié, L-J-E, Cellier, allez savoir. 30 à 27 et qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc c'est un gros exploit hein, quand même. En rugby, bon, mais on reste à Montpellier, c'est vraiment la crise. Une sixième défaite d'affilée contre Basse, 5 à 30.
Ouais. Visiblement, ça passe pas du tout, ça passe plus du tout entre Galtier et ses joueurs.
Ouais, c'est bien dommage. Parce que c'est
mais Galtier, pour le moment, est sauvé. Donc, bon, mais c'est vrai que ça sent le roussi pour ce club de Montpellier avec un président Altrad qui, on dit que Boudjella est milliardaire, mais Altrad à côté, il est multimilliardaire. C'est un niveau financier par rapport à Boudjella de 1 à 5, voire 6. Donc, il peut pas se contenter d'une saison comme ils sont en train de faire.
Non, mais le problème, est-ce qu'il vient réellement du coach aussi? Je vois que vous parlez de Galtier, mais Galtier, c'est un des meilleurs entraîneurs français.
Mais
je
pense que la méthode de Galtier, elle est comme celle de Bielsa, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle est très dure, elle est très exigeante. Et
usant pour les joueurs.
Et je pense qu'au bout d'un moment, usant pour les joueurs. Voilà. Au bout d'un moment, ça peut ne plus passer. Regarde, Bielsa, par exemple, a fait deux ans dans chacun de ses clubs, parce qu'au bout d'un moment... Bah,
c'est comme Mourinho. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions aussi?
Je pense, parce qu'il a, bon, il a peut-être pas les stars que Toulon recrute, mais enfin, il a tout un tas de vedettes, d'internationaux.
Il a
une équipe hyper costaud.
Il a des internationaux, il a René Ranger qui est All Black, qui est un super joueur, Nicolas Mas, puis il est de l'équipe de France, Trenduc, non, ils ont quand même.
Ils ont perdu Gorgotz quand même.
Ouais, ils ont perdu Gorgotze, mais
ils ont perdu Trenduc aussi.
Oui, qui est blessé.
Mais
ça allait mal déjà avant que Trenduc se blesse.
L'exploit de Clermont qui allait s'imposer au Munster 16 à 9, ça c'est énorme. Hein.
Bah oui, parce que la première équipe française à s'imposer dans ce stade là où les supporters sont habillés tout en rouge. Ils gueulent deux heures avant le match, deux heures après le match. Bon voilà, une ambiance extraordinaire. D'ailleurs, ça vaudrait le coup d'aller voir un match dans un stade comme ça.
On pourrait demander à Laurence, son beau-frère y était, je crois.
Ouais, mais j'imagine qu'ils ont dû se régaler. Donc Clermont qui finalement a changé d'entraîneur, on se posait la question avec le départ de Cotter, qu'est-ce que ça allait donner, puis finalement Clermont est toujours là quoi.
Clermont est toujours là, c'est
autant en championnat qu'en Coupe d'Europe.
C'est Toulon qui a eu un peu plus de mal ce week-end.
Allez, enfin de chute pour Toulon, ouais, comme tu dis Luc, qui est défait à Leicester 25 à 21.
Bon, rien d'inquiétant puisqu'il marque le bonus défensif. Bon, tu perds à Leicester. Leicester, c'est quand même un des meilleurs clubs historiques du championnat d'Angleterre. Bon, voilà, rien de dramatique. Il y a un match retour le week-end prochain. Bon, pas de conséquences vraiment désastreuses pour ce club.
D'accord. Un fait de l'actualité nationale ou internationale que quelqu'un d'entre vous voudrait évoquer?
Tu peux partir.
Vas-y, Patrick.
Ah ben, il faut parler de Manoudou. En natation, tu l'as abordé. Enfin, tu parlais de natation en début. Bon, il a fait les championnats du monde en petit bassin, complètement hallucinant. Alors l'anecdote de Manoudou, c'est que ben il mesure 1,99, il pèse 5 kilos. Je sais pas si vous l'avez vu.
Pour le poids.
Il a des abdos, des muscles, c'est impressionnant. Et alors il a avoué qu'il prenait de la créatine. Alors peut-être avis aux amateurs.
J'ai pas entendu ça.
Avis aux amateurs. Alors la créatine, c'est ce que prenaient Zidane et Deschamps quand ils jouaient à la Juventus. À l'époque, c'était interdit en France, mais c'était autorisé en Italie. Bon, maintenant, c'est autorisé aussi en France, donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme du dopage. Mais bon, ça fait fondre la graisse et donc bien sûr ressortir les muscles. Donc voilà, si vous voulez avoir le même corps que Florent Manoudou, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
J'ai pas de muscles.
Allez la créatine.
T'as pas de graisse, tu veux dire.
Enfin, bon, il est impressionnant. Il est impressionnant à tous les niveaux, physiquement et dans l'eau.
Merci Patrick de parler de sport dont on parle pas. Luc et après Pierre. Luc.
Ouais, moi je voulais juste souligner la deuxième victoire en Euroleague du CSP Limoges qui a fait un super match contre Malaga jeudi. Ils ont eu 20 points de retard et ils finissent par une deuxième mi-temps de folie pour
des supporters géniaux Limoges.
Ouais.
Et
voilà, ils sont pas totalement éliminés. Ça va être compliqué pour se qualifier, mais ils sont pas totalement éliminés de la course au second tour.
On reviendra dessus, ouais. Bien, Luc. Pierre.
Allez, donc Patrick parlait de Golgoth. Il y a aussi les skieurs français qui ont cartonné ce week-end.
C'est vrai.
Donc deux podiums pour Pinturo. Belle deuxième place hier. C'était beau à voir.
Une Coupe du Monde.
Oui,
Coupe du Monde.
River Creek.
Et les filles étaient avec Louise.
Ouais, il va falloir qu'on parle un peu de ski aussi. La saison arrive, Coupe du Monde, voilà. Mickaël, non, pas d'actualité nationale.
Je rebondis juste sur les propos de Patrick concernant la créatine. Nous, il y a quelques joueurs à l'AFL arrivant à la saison de l'été qui se mettent à faire des abdos au mois de mars-avril. Donc, c'est peut-être un tuyau que
voilà.
Je vais filer.
Donc, abdos plus créatine, ils sont bons. Hein.
Non. On prend pas de créatine, amende. Non. Que de la Nivea.
On est très créatifs, par contre.
On est très créatifs. Merci, Luc. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'être venus dans notre émission. C'est gentil.
Merci à vous.
Et on vous retrouve, bien sûr, dans l'Instant Sport la semaine prochaine pour une prochaine émission. Cette émission est rediffusée mercredi 18h10. C'est podcastable dès cet après-midi sur 48fm.org et également sur nos réseaux sociaux avec 48fm Mende Lozère pour Facebook et 48fm Mende pour Twitter. Merci, on va te laisser aller appeler tes amis d'Andrézieux, Laurent, pour avoir okay. Des nouvelles.
Cool.
Et on parlera de Miss France aussi, vu que tu as suivi avec attention
voilà,
le concours.
On peut faire un débrief.
On fera un débrief là.
Tout mais elle est loin, hein, Nord-Pas-de-Calais, ça fait loin. Hein.
Ouais. Les ch'tis, on n'était pas loin dans
non,
nos pronostics.
Il y a Miss Languedoc à consoler.
On va s'y rendre. Merci les gars, allez à bientôt, à lundi prochain, midi et demi.
C'est les Street Jones au couloir numéro 2, allez les Street, c'est parti pour les Street Jones.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas d'apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.